le monde chavire. Et elle m'a juré qu'elle n'y était pour rien sur la tête d'Adrien et de moi. Que tout ça n'avait aucun rapport avec elle. Que si Jacques était mort, elle n'y était strictement pour rien. Ni mon père, ni personne.
Cette femme en pleurs, c'est Dari Boudboul. Héroïne malgré elle d'un drame familial où le sang coule, où les trahisons se multiplient et où la vérité peine à éclater. Mais revenons au début de cette troublante histoire.
Vous écoutez Fait d'hier, le podcast du magazine Femmes Actuelles Senior. Chaque semaine, nous nous replongeons avec vous au cœur des grandes histoires criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Conce Boudboul.
December 25, 20h20. Un homme referme la porte de son appartement, au deuxième étage du 29 avenue Georges Mandel, dans le 16e arrondissement de Paris. Il tire une cigarette de son paquet et descend l'escalier à la hâte. Il est attendu pour dîner. Soudain, trois coups de feu claquent et l'homme s'effondre. Il tient encore entre ses doigts la Marlboro rouge qu'il n'a pas eu le temps d'allumer. Une balle lui a traversé le thorax. Une autre la tête. Et la dernière, coup de grâce, s'est fichée dans sa tempe. Cela n'a pris que quelques secondes. L'enquête, elle, va durer des années.
Un avocat assassiné à Paris, il s'agit de maître Jacques Perrault.
Les policiers arrivent sur place 10 minutes plus tard. Ils identifient la victime et comprennent immédiatement que l'affaire va faire grand bruit. Car l'homme abattu, Jacques Perrault, un brillant avocat de 39 ans, est un ami intime du Premier ministre, Laurent Fabius. Il jouit d'une certaine notoriété. 3 ans plus tôt, il a épousé Dari Boudboul.
Voici Dari Boudboul qui surgit avec ce qui au premier poteau a pris l'avantage. Siegfried en seconde position dans l'accord de Maxime Sfer à l'extérieur. Baloa, bravo. Oui.
Cette jeune jockey, détentrice de la cravache d'or, est une véritable star. Elle est la première femme à avoir remporté un tiercé. Elle fait partie des grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Et elle vient de sortir un livre, et même un disque. Bref, le grand public la connaît bien. Très vite, l'immeuble de l'avenue Mandel se transforme en fourmilière. Sous les flashs des appareils photo, on relève soigneusement les premiers éléments matériels. 3 balles de 22 longs rifles. On s'aperçoit aussi que le pneu arrière de la voiture de Jacques Perrault, garé au pied de l'immeuble, a été crevé. Aucun doute, il s'agit d'un guet-apens. Le meurtrier a préparé le terrain et n'a laissé à l'avocat aucune chance de lui échapper. Les enquêteurs interrogent d'abord les voisins. Ils ont tous entendu des coups de feu, mais personne n'a rien vu. Pas d'indice sur place, pas de témoin, et un tueur évaporé dans la nature. Les policiers sentent que la scène de crime ne parlera pas davantage. Il se penche alors sur l'entourage de la victime et découvre que le bonheur apparent du couple Perrault-Boudboul cache une réalité beaucoup moins glamour. 2 mois auparavant, Jacques Perrault avait demandé le divorce. L'avocat, cavalier émérite, était aussi cavaleur. Et loin des caméras et des couvertures de magazines, la jockey star était une jalousie maladive. Plusieurs fois, Dari lui a adressé des menaces de mort et lui a fait du chantage au suicide. Jacques avait même demandé la garde de leur fils, Adrien, 3 ans. D'après l'un de ses amis, il se faisait beaucoup de soucis et craignait pour sa vie. Un crime passionnel, c'est tout d'abord ce qu'envisagent les policiers. Mais en creusant un peu, les limiers de la brigade criminelle repèrent des éléments très troublants. En prévision de son divorce, Jacques Perrault avait commencé à préparer un dossier sur sa belle-famille. Et ce qu'il a appris sur Marie-Élisabeth Conce Boudboul, la mère de Dari, la stupéfie.
Je voulais savoir, je lui ai supplié de me dire, elle m'a dit non, la seule chose que je peux te jurer, c'est que je ne suis pour rien pour ce qui est arrivé à ton mari. Elle savait très bien, peut-être pas à ce point, à quel point j'y tenais, mais elle m'a juré sur la tête d'Adrien et de moi qu'elle n'était pour rien. Et je la crois, et mes beaux-parents la croient, et toutes les personnes proches de Jacques Lacroix.
Cette femme élégante et charismatique de 61 ans, qui se présente comme veuve, avocate internationale et dévote, s'est autorisée quelques petits arrangements avec la vérité. En fait, elle n'est pas veuve, mais divorcée. Son ex-mari, Robert Boudboul, le père de Dari, n'est pas, comme elle le prétend, mort dans un accident d'avion. Ils ont simplement organisé son décès pour éviter le candidat-on. Jacques Perrault a retrouvé sa trace, à Paris, où Robert Boudboul mène une existence discrète. Il a aussi découvert que sa belle-mère a été radiée du barreau en 1981. Elle a trempé dans une colossale escroquerie lorsqu'elle défendait les missions étrangères de Paris, une congrégation catholique financée par l'Église. De fil en aiguille, Jacques Perrault a reconstitué le passé d'une femme affabulatrice et secrète. Pour Marie-Élisabeth Consboudboul, la disparition de ce genre trop fouineur est une aubaine. Les soupçons des policiers se focalisent donc sur la famille Boudboul. Dans la nuit, ils interrogent d'abord Dari. Effondrée, elle répond sans faillir aux questions. Le divorce ? Oui, en effet, il y a une procédure en cours, mais tout se passe sans accroc. Le soir du meurtre, elle dînait avec sa mère chez un ami. Plusieurs personnes peuvent certifier qu'elles se trouvaient toutes les deux chez lui avant 20h15. Quelques heures plus tard, sa mère, Marie-Élisabeth, fait irruption au 36 quai des Orfèvres. Avec une prestance et un calme qui impressionnent les enquêteurs, elle fait à son tour le récit de la soirée. L'alibi tient parfaitement. Les témoins sont formels. Ni Dari, ni sa mère ne pouvaient être chez Jacques Perrault au moment du crime. Le lendemain, le juge Alain Verlaine est désigné pour mener l'instruction. Cet obsédé du secret aime travailler dans une atmosphère sereine, loin des emballements médiatiques. C'est pourtant tout l'inverse qui va se produire, car la famille Boudboul adore jouer avec le feu des projecteurs. Le 30 décembre, Dari Boudboul est sur un plateau de télévision. Elle lâche en direct une véritable bombe. Elle affirme qu'il faut chercher l'assassin de son mari du côté des milieux hippiques. Le juge Verlaine est abasourdi. Pourquoi ne lui a-t-elle pas parlé de cette piste ? Le 5 janvier, rebelote, la reine des champs de course et sa mère s'offrent une nouvelle apparition publique au JT d'Antenne 2. Les téléspectateurs médusés assistent aux retrouvailles de Dari et de son père, revenus d'entre les morts.
Pourquoi on n'a pas pu se retrouver sans... Dans tout ça, sans qu'il y ait la mort de Jacques au milieu de tout ça, pourquoi?
Mais quand même, c'est assez surprenant, un père qui décide de disparaître totalement dans la circulation sa fille.
Oui, mais je vais vous dire, l'état d'esprit d'un homme de 45 ans et de 65
ans... Mélodramatique à souhait, cette séquence émotion, menée de main de maître par Marie-Élisabeth, fait pleurer dans les chaumières. Mais ce qui attire tout particulièrement l'attention des policiers, ce sont les propos inouïs tenus par la mère de Dari au micro des journalistes. Publiquement, elle évoque le dossier des missions étrangères, qui lui a valu sa radiation quelques années plus tôt, puis raconte, sans sourciller, que Jacques Perrault enquêtait sur cet épisode juste avant sa mort.
Si Jacques m'avait parlé de ce dossier, je lui aurais dit « Vous touchez de la dynamite, vous ne touchez pas ». J'ai donné une parole. Je ne dirai rien, quitte à payer de ma personne mon silence.
Sa théorie sur le meurtre ? Je pense que c'est lié à sa curiosité. Il a dû vouloir aller trop loin. Ça vient de bien au-dessus de moi. Jacques Perrault a-t-il mis la main sur des informations trop sensibles ? En évoquant la mafia des jeux hippiques et l'affaire des missions catholiques, c'est ce que semble insinuer le clan Boudboul. Mais les inspecteurs ne trouvent aucun élément probant pour étayer ses thèses. Alors, le doute s'installe. La sexagénaire échafaude-t-elle ses théories au Roland complotiste pour faire diversion ? Certes, son alibi le soir du meurtre est irréfutable, mais rien ne l'empêchait de le commanditer. Ne cherche-t-elle pas, tout simplement, à brouiller les pistes ? Pendant des heures, Marie-Élisabeth Consboudboul balade les policiers qui l'interrogent, ne dit rien qui puisse la trahir et ment sans vergogne. N'a-t-elle pas réussi, durant des années, à cacher à sa propre fille que son père est toujours en vie ? Le sphinx, comme on l'appelle déjà, adapte constamment son discours et semble avoir toujours une bonne histoire à tirer de sa manche. Comme tous ces cancers qu'elle s'est inventés, une fois pour convaincre le fisc de la laisser tranquille, une autre fois pour amadouer une amie à laquelle elle demandait un service. Au cours d'une perquisition, les enquêteurs mettent la main sur deux numéros de compte bancaire enregistrés en Suisse. Madame y dispose d'un confortable pactole de plusieurs millions de francs. Il découvre, en questionnant l'une de ses anciennes amies, que Marie-Élisabeth détestait son gendre. Elle lui aurait même déclaré un jour « Tu sais, il est facile de nos jours de faire supprimer quelqu'un. Il suffit d'en avoir les moyens. » C'est inquiétant, mais pas suffisant pour la confondre. Les policiers ne lâchent pas l'affaire. Ils ont la conviction que belle-maman leur cache quelque chose. Elle se comporte comme une femme traquée. Dès qu'elle se sait placée sur écoute, elle passe certains de ses coups de fil depuis le téléphone d'une charcuterie de la rue Mignard, à deux pas de chez elle. On l'entend souvent discuter avec un certain Robert. Mais on a beau éplucher ses conversations, on n'en tire pas grand-chose. 2 ans après l'assassinat de Jacques Perrault, l'enquête est au point mort. Son épouse, Dari, a été mise hors de cause. Mais les soupçons qui entourent sa mère ont brisé sa carrière et son aura médiatique. Interdite de champ de course, elle vit seule avec son fils, à l'abri du monde. C'est au Havre que l'affaire va rebondir, 1 an plus tard. Le 5 mai 1988, on découvre un cadavre sur les rochers du port de plaisance de la ville. D'après ses papiers, l'homme s'appelle Bruno Dassac. Il a 51 ans. Il a été abattu d'une balle dans la nuque, un mode opératoire qui porte la signature de la pègre. Ce représentant en linge de maison était un colosse jovial, bavard, un peu vantard et surtout passionné de jeu. Un homme qui flambe au poker et au tiercé et qui se rend régulièrement à Paris où il dilapide des fortunes au casino. Il menait grand train, mais avec quel argent ? En grattant à peine, les enquêteurs de la PJ de Rouen découvrent que le Havrais avait une deuxième vie et beaucoup de relations. En plus de son travail de VRP, il réalisait parfois quelques extras. Pour certains clients, il jouait les hommes de main en persuadant leurs débiteurs de régler leurs dettes. Et régulièrement, il faisait des allers-retours en Suisse. Mais ces derniers temps, il semblait sur les dents. Il passait tous ses coups de fil depuis des cabines téléphoniques. Et à plusieurs reprises, il avait affirmé être sur un gros coup. La piste du règlement de compte s'impose naturellement aux policiers. Pourtant, un petit indice, en apparence insignifiant, les aiguille vers une toute autre direction. Sur le carnet d'adresse de Dassac apparaît un numéro de téléphone, celui d'une charcuterie parisienne, et à côté un nom, Marguerite Sanson. Consciencieusement, les policiers normands décident d'aller jeter un coup d'œil à cette charcuterie. Les enquêteurs parisiens, qui travaillent sur le meurtre de Jacques Perrault, s'intéressent eux aussi de très près à cette boutique. C'est celle d'où Madame Conce Boutboul passe ses coups de fil confidentiels. Et son pseudonyme du moment est Marguerite Sanson. Les inspecteurs de Paris et de Rouen comprennent vite qu'ils sont en train de tirer la même ficelle. Marie-Élisabeth Conce Boutboul, alias Marguerite Sanson, était en contact avec Bruno Dassac, alias le fameux Robert repéré sur les écoutes. Les pièces manquantes du puzzle s'assemblent parfaitement. Dassac était un habitué des cercles hippiques. Peut-être a-t-il rencontré la famille Boutboul dans ce cadre-là. Les enquêteurs creusent et se demandent s'il n'y aurait pas un lien entre ses déplacements en Suisse et les comptes bancaires de Marie-Élisabeth. Ils se rendent à Genève et décrochent le jackpot. Quelques mois après l'assassinat de Jacques Perrault, Dassac a touché 140 000 francs via le compte d'un certain Nitram. Reste à trouver qui se cache derrière ce pseudonyme. Avec 2 cadavres sur les bras, les policiers ont des arguments de poids pour venir à bout de la légendaire discrétion suisse. Michel Constantin, le directeur de la banque, finit par cracher le morceau. Il a mis en place pour son amie Madame Conce Boutboul un système qui lui permet de retirer et de virer des fonds de manière totalement opaque. Nitram, c'est lui. Fait troublant, Michel Constantin gère aussi les fonds des missions étrangères de Paris. Encore elle. Quoi qu'il en soit, les 140 000 francs reçus par Bruno Dassac sortent des poches de l'intrigante belle-mère. Serait-ce le paiement d'un service lié à la mort de Jacques Perrault ? Au moment des faits, en décembre 1985, le Havrais est bien à Paris, chez une amie. Et le soir du meurtre, il a disparu sans donner de nouvelles. Désormais, les policiers en sont convaincus, Dassac s'était trouvé une nouvelle vocation, tueur à gages.
Le témoignage accablant du chauffeur de taxi, Isoro Figuier, emportera l'adhésion des jurés. L'homme raconte qu'à plusieurs reprises, Elisabeth Conce lui a demandé s'il ne connaissait personne pour éliminer son gendre.
Le témoignage du chauffeur de taxi de Marie-Elisabeth, recueilli en septembre 89, appuie lourdement cette hypothèse. Quelques jours avant l'assassinat, il a en effet vu sa cliente discuter avec un inconnu. L'homme est formel. Il s'agit bien de Bruno Dassac. Son récit est accablant, mais les enquêteurs ont du mal à le croire. Pourquoi n'a-t-il pas parlé avant ? Parce que j'avais la trouille, se défend le chauffeur. Le 9 octobre 89, Alain Verlaine convoque Marie-Elisabeth Conce-Boutboul au palais de justice. Le juge l'inculpe et la fait incarcérer pour complicité d'assassinat. Pendant les 4 années que va durer l'instruction, elle se borne à une unique ligne de défense. Elle n'est qu'un simple pion dans une affaire qui la dépasse et qui remonte jusqu'au Vatican. Mais depuis le début, les enquêteurs se refusent à explorer cette piste. Trop tordue, trop complexe. Enfin, le procès s'ouvre le 2 mars 1994. Le procureur ne dispose d'aucune preuve matérielle et le tueur présumé, Bruno Dassac, ne pourra plus jamais parler. Madame Conce-Boutboul l'a-t-elle fait taire à jamais ? Faute d'éléments suffisants, cette accusation-là débouchera sur un non-lieu. Mais pour l'assassinat de Jacques Perrault, en revanche, un large faisceau d'indices la désigne. Ses propos réitérés de vouloir se débarrasser de son gendre, son virement de 140 000 francs à Bruno Dassac après le meurtre, leurs échanges réguliers. La justice la condamne finalement à 15 ans de réclusion. Dès lors, Marie-Elisabeth se mure dans le silence, sans jamais renoncer à sa version des faits. En prison, elle se réfugie dans la foi. « Ne t'inquiète surtout pas pour moi », écrit-elle à sa fille. « J'ai toujours eu l'âme monastique et je crois que j'ai raté ma vocation, j'aurais dû être carmélite. Vous me manquez beaucoup, mais je me battrai moi aussi pour faire triompher la vérité, avec l'aide de Dieu. » Un vœu pieux ? 4 ans plus tard, le 28 décembre 1998, elle est libérée pour raison de santé à l'âge de 74 ans. Cette affabulatrice de génie qui émet en le feu des projecteurs disparaît des radars médiatiques. La machiavélique belle-mère est depuis restée muette comme une tombe.
Ce texte, écrit par Thibaut Panis et adapté par Anne-Vincent Cini et Christine Ivaren, a été enregistré par Anne-Vincent Cini, mixage de Lucas Vibo.
Vous avez écouté Fait d'hier. Nous attendons vos réactions et vos commentaires. N'hésitez pas aussi à nous noter sur les plateformes et à partager avec votre entourage. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle affaire criminelle.